vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans l'actualité des luttes, nous vous proposons de revenir sur une table ronde intitulée « Pauvreté, un business financé par l'État » organisée lors des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte le 12 novembre à la Maison des sciences de l'homme. Bonne écoute.
Combien y a-t-il de pauvres en France ? Eh bien bizarrement, ce chiffre-là est assez méconnu, tout simplement parce que les chiffres sont datés. Donc, on ne sait pas bien combien il y a de pauvres aujourd'hui en France, puisque les derniers chiffres publics remontent à 2019. Or, comme on le sait, depuis 2019, on a quand même connu pas mal de crises. Bien sûr, la crise sanitaire avec le Covid, puis la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation. Donc, on peut quand même naturellement soupçonner qu'il y a beaucoup plus de pauvres aujourd'hui en France qu'en 2019. Et en 2019, selon l'INSEE, la France métropolitaine comptait 9,2 millions de pauvres. C'était donc déjà 14% de la population. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pauvre ? On peut peut-être le rappeler déjà. Ce sont des personnes qui vivent avec moins de 1100 euros par mois, quand elles sont seules, et 2310 euros pour un couple avec deux enfants. Pour certains acteurs qui s'occupent justement des plus démunis en France, donc surtout des bénévoles, c'est à se demander si ce n'est pas un business financé par l'État. Il faut savoir que depuis 2016, la loi interdit de détruire les denrées alimentaires et impose de donner aux associations d'aide alimentaire les produits que les distributeurs ou les producteurs pensent ne plus pouvoir vendre dans la limite de la date de péremption. Ces dons, comme peut-être pas tout don, mais en tout cas beaucoup de dons en France, permettent aux donateurs de bénéficier de déductions fiscales. Quand une entreprise, une grande surface, fait des dons de ces produits en fait qu'elle ne pourrait, qu'elle considère qu'elle ne pourrait pas vendre, elle récupère une déduction fiscale. Et il y a même des entreprises qui se sont lancées sur le créneau, qui proposent leurs services donc à ces donateurs pour gérer leur ristourne fiscale afin de les optimiser, les maximiser. Donc c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alors moi-même, je suis journaliste, je m'appelle Stéphanie Fontaine, comme une fontaine, et autour de moi, Bénédicte Bonzi, docteur en anthropologie sociale, chercheur associé au LAIOS, Philippe Brevard,
alors qui se définit comme un citoyen engagé, mais en l'occurrence qui est président de la Banque alimentaire de Savoie. Et puis Jean-François Coulhomme, député La France insoumise de Savoie. Alors je vous transmets la parole, peut-être c'est vous qui décidez, je ne sais pas si vous pensez que vous pouvez prendre la parole dès maintenant. Ouais, alors commençons honneur aux dames, pour peut-être plus vous présenter quand même et nous expliquer en quoi consiste votre travail.
D'accord. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Bénédicte Bonzi, je suis docteur en anthropologie sociale et j'ai écrit un livre qui est en partie issu de ma thèse qui s'appelle « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires ». Et ce livre, en fait, il vient dresser un peu la rencontre de deux problématiques. La problématique du monde agricole, dont on aura peut-être peu le temps de parler là maintenant, parce qu'on a décidé de s'intéresser au grand sujet qui est finalement le marché immoral de la faim. Et mon observation, en fait, en participant pendant 5 ans au travail des Restos du Cœur en tant que bénévole, a été vraiment de décrire un système et m'a permis de caractériser ce que moi j'ai appelé les violences alimentaires. C'est-à-dire, comme ça a été très bien rappelé, eh bien, normalement, l'alimentation, elle devrait être rendue accessible aux personnes, tout simplement parce qu'il s'agit d'un droit fondamental, et ce n'est pas le cas. Donc, mon propos, c'est aussi de montrer qu'est-ce que ça fait aux personnes d'avoir un droit bafoué, le droit à l'alimentation bafoué au quotidien. Et qu'est-ce que ça fait tant à celui qui reçoit, mais aussi à ceux qui distribuent, parce que la question des bénévoles n'est pas simple. Donc voilà une petite présentation brève. Et après, j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi reparler ensemble de l'économie du don pour aussi vous montrer que dans cette économie-là, ben, en face, il y a une autre forme d'économie qui est mise en œuvre, qui est une économie morale, davantage celle des bénévoles et d'autres acteurs politiques aussi qui permettent tout de même, au sein de ce tableau noir qu'on va dresser un petit peu, de mettre en place de la justice et de la justice sociale. Donc oui, il y a une alerte à lancer, mais dans cette alerte, il y a aussi un message très important à avoir, de se dire que des milliers de personnes sont engagées parce qu'elles ressentent au fond d'elles-mêmes qu'il y a urgence, et ça depuis même avant l'appel de Coluche, donc c'est important d'y penser aussi. Philippe.
Donc je vais me présenter en deux mots. Donc je suis Philippe Brevard, je suis président de la Banque alimentaire de Savoie depuis maintenant 2 ans et demi, mais je travaille à la Banque alimentaire depuis 7 ans. Et autre chose, je suis l'un des co-organisateurs de ces rencontres des lanceurs d'alerte avec Daniel Ibanez. Donc je vais vous passer la parole tout de suite à Jean-François, mais je vous dirai ce que c'est une banque alimentaire, comment on fonctionne, et ça plus tard.
Merci Philippe. Donc je suis Jean-François Coulhomme, député de la Savoie. Mais pour décrire un petit peu le contexte dans lequel je suis face à vous aujourd'hui, c'est que nous connaissons maintenant depuis un petit bout de temps avec Philippe et nous avons pu échanger sur la façon dont les banques alimentaires étaient organisées, fonctionnaient, puisque on s'intéresse un petit peu à tous les sujets et celui-là est très important étant donné la crise économique qui frappe durement, comme Stéphanie l'a évoqué en introduction. La problématique vient du fait que chaque année, l'État, le contribuable, donc on dit un business financé par l'État, c'est vrai, le contribuable fait un effort remarquable puisque 156 milliards d'euros sont reversés aux entreprises, en général les grosses entreprises, pour conforter la rente actionnariale en quelque sorte, puisqu'il n'y a aucune contrepartie. Et ces sommes-là, en fait, se ventilent selon différents dispositifs qui sont des allègements de cotisations sociales qui nuisent ensuite au financement de la sécurité sociale, mais également avec des avantages fiscaux, des déductions fiscales. Et on est ici dans le cœur du sujet puisque la déduction fiscale dont bénéficient les grandes et moyennes surfaces et les grandes surfaces alimentaires de notre pays pour se débarrasser, en quelque sorte, de leurs produits en proche des dates limites de consommation, représentent plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, nous avons déposé un projet de loi qui a été inspiré par les échanges et les discussions avec Philippe, avec les autres associations et organisations de la Banque alimentaire et de l'aide alimentaire d'urgence.
Alors je repasse la parole peut-être à Philippe pour bien comprendre de quoi on parle. Comment ça se passe? Comment les banques alimentaires fonctionnent? Comment s'organise la ramasse? C'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui, c'est-à-dire récupérer auprès des producteurs et distributeurs ces produits qu'eux-mêmes considèrent qu'ils ne vont pas plus vendre et donc qu'ils ne peuvent plus jeter à la poubelle et qu'ils sont obligés de donner à des associations.
Voilà. Donc je vais commencer d'abord par faire un rappel du contexte. Tu citais des chiffres sur la pauvreté. Aujourd'hui, on a quand même plus de 10 millions de pauvres en France. Sur une population de 67 millions, c'est beaucoup. On a aussi plus de 10 millions de personnes qui vivent en précarité alimentaire. Les deux sont très liés, bien sûr. Donc, on parle de 10 millions de personnes, c'est énorme. Le nombre de personnes qui sont à l'aide alimentaire, que ce soit les banques alimentaires, les Restos du Cœur, on tourne à 5-6 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire. Vous voyez les chiffres dont on parle. Donc maintenant, je vais parler un peu d'une banque alimentaire, parce que c'est le dossier que je connais le mieux. 50% des approvisionnements proviennent des ramasses dans les magasins, donc de ces fameux produits invendus en fin de vie. 50%. Il y a 20% qui proviennent des producteurs donateurs locaux. Nous, en Savoie, on a quelques producteurs de pâtes, de café, c'est bizarre, de charcuterie et autres, qui nous donnent aussi des produits. C'est aussi défiscalisé, bien sûr. Il y a les produits de l'Europe. Là, si on a le temps, on en reparlera. C'est une autre chose. Ce sont des budgets européens financés, bien sûr, par les États membres de l'Europe qui nous fournissent des produits, mais qui sont des produits de longue conservation qu'on va distribuer après sur 6 mois, 1 an, 18 mois. Et la dernière source d'approvisionnement, c'est la collecte nationale qui aura lieu dans 15 jours. Si vous voulez donner à l'occasion, vous serez les bienvenus. Donc, on va se focusser sur ces plus de 50% qui proviennent des produits des grandes surfaces. Donc nous, à la Banque alimentaire de Savoie, par exemple, on a 3 camions qui tournent tous les matins pour aller ramasser ces produits dans les différents magasins, dans une trentaine de magasins. Ces produits reviennent à la Banque alimentaire, ils sont triés et on redistribue à des associations bénéficiaires. Déjà, au niveau de la différence entre ce qu'on reçoit et ce qu'on conserve, il y a un écart de 20, 25 ou 30%. On ne sait pas le mesurer, parce qu'on ne pèse pas à l'arrivée des camions. On pèse uniquement après les tris des produits. Mais avec mes collègues de la région Aura, on estime que c'est vraiment entre 20 et 30% des produits qui sont jetés. Pourquoi sont-ils jetés? Parce que l'emballage peut être fortement dégradé. La date limite de consommation peut être dépassée, la fameuse DLC.
Ce qui est quand même illégal, quand même, il faut le rappeler peut-être.
Ce qui est totalement illégal, parce qu'il y a une amende qui est prévue par la loi qui est de 1500 euros par produit vendu ou distribué en date dépassée. 1500 euros. Pour un yaourt, c'est 1500 euros. Pour 8 yaourts, c'est 8 fois 1500 euros. Ça, c'est la loi. Ce n'est bien sûr jamais appliqué. Il faut être clair.
Peut-être pas, pardon de vous interrompre, mais c'est peut-être pas la majorité des cas non plus cette date révolue.
Oh, on est bien d'accord, c'est pas la majorité. Ça se passe par magasin. J'ai des confrères qui m'ont dit, ce magasin-là, il nous donne tous ses produits en date dépassée. En Savoie, j'ai peu eu le cas. Il y a des produits qui arrivent en date dépassée, mais c'est relativement rare. Mais par contre, il y a beaucoup de produits qui sont vraiment en fin de vie, et si on les distribue pas tout de suite, on les jette. Donc, et la plupart des produits, ce sont des fruits, des légumes, pain, viennoiserie, et après tous les produits frais, les produits laitiers notamment.
Donc, en fait, vous, les trois camions récupèrent donc des produits, vous ne les choisissez pas, hein, c'est les entreprises, les grandes surfaces qui mettent à disposition les produits, les bénévoles récupèrent les produits, les ramènent, et là, il y a un tri qui se fait. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a déjà 20, 25, 30% de ces produits qui, en fait, ont été donnés, mais qui sont inutilisables.
Et donc, on repart de chaque magasin avec un fameux bon de livraison. Un bon de livraison qui, lui aussi, est illégal, parce qu'il n'y a pas de poids dessus. Normalement, lorsqu'on transporte une marchandise, on doit pouvoir présenter aux forces de l'ordre, si on est contrôlé, le bon de livraison avec un poids. Là, on n'est pas capable de justifier. C'est simplement une liste de code article, et donc avec une désignation des quantités, c'est vraiment incontrôlable. Aussi, il y a un phénomène qui est d'ailleurs mentionné dans le rapport de l'ADEME. Des fois, les magasins nous donnent des palettes filmées en noir. Filmées en noir, pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et donc, on ne peut pas refuser le don.
Oui, il y a eu un rapport de l'ADEME assez récent qui, finalement, qui dresse justement tout le décor de ces ramasses et dans lequel on se rend bien compte qu'il y a des problèmes en fait, qui sont largement connus de nos autorités, si je puis dire.
Peut-être pour aussi mieux vous planter le décor, vous dire qu'auparavant, ces ramasses et cet usage-là, il a été vraiment décuplé à partir de la mise en œuvre de la loi Garot, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Une loi qui, finalement, est venue mettre côte à côte deux problèmes, celui du gaspillage alimentaire et celui de la pauvreté, en prétendant que les deux, en fait, pouvaient avoir une réponse commune. Et c'est bien autour de ça, aujourd'hui, qu'on discute pour montrer que non seulement il n'y a pas une réponse commune possible, c'est qu'on a créé un nouveau débouché économique au gaspillage alimentaire. Donc, au lieu de le réduire, ben, voilà, on fait ce que le capitalisme sait le mieux faire, on le développe. Et on utilise en fait le terme de don à mauvais escient en utilisant du temps gratuit pour transporter tout un tas de produits et en ne permettant pas finalement à celui qui reçoit de pouvoir exister dans ce don. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais avoir en tête en fait que cette loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, la loi Garot, est une vraie fausse solution sur les questions du gaspillage alimentaire et de l'aide alimentaire. Elle a voulu répondre à une pratique qu'avaient les supermarchés, c'était de mettre de l'eau de Javel sur les produits, de les détruire pour pas que les personnes puissent les récupérer. Donc c'était aussi une forme d'autonomie et de débrouille de tout un tas de gens d'aller eux-mêmes faire les poubelles pour se servir. C'était aussi une forme pour les différentes structures d'aide alimentaire d'avoir des petits plus dans les paniers de l'aide alimentaire, mais pas du tout de fonctionner avec ces produits. Donc d'un petit plus, un petit à côté, on est devenu ça va être ça, et avec finalement un vrai biais, c'est-à-dire que le supermarché prétend donner en tonnes tant de repas, et en réalité, tu viens de nous le rappeler, non, il n'y a pas du tout de quoi fournir des repas équilibrés au sein de ces ramasses. Et donc, il y a eu un travail de l'ADEME pour essayer d'aller voir plus loin grâce au cri d'alerte des associations qui ont dit mais en fait on est quoi, on est le Veolia des supermarchés là, c'était un peu le cas, et donc voilà, on en est à cette critique aussi de l'usage de ces produits parce qu'il y a eu cette loi de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Alors je me permets quand même de rebondir, cette loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, elle permettait quand même de mettre fin à ce que vous venez de rappeler, de jeter à la poubelle quand même des produits qui pouvaient servir, donc est-ce que vraiment, elle n'a pas non plus quand même son utilité, cette loi ? Qu'est-ce que vous dites non, on aurait...
Alors, au départ, quand il y a eu le premier rapport Garot, etc., oui, il y avait des choses intéressantes. Mais ça a été un peu balayé au niveau des grandes surfaces qui sont venues mettre en place les conventions de dons. Et dans ces conventions de dons, moi, je n'y vois pas un don, j'y vois un contrat. Normalement, le don, c'est le fait de ne pas savoir ce qu'on va recevoir en retour ni quand on va le recevoir. Et là, on ne donne qu'à condition de savoir combien l'autre va nous rendre. Et même peut-être ils le savent avant de donner en biaisant certains chiffres. Donc du coup, il y a toute une problématique autour de ça. Alors, dans la loi Garot, il n'y a pas que la question de l'aide alimentaire. Mais le fait de rapprocher cette problématique de l'aide alimentaire de nos surplus et d'imaginer que ce qui était dédié à la poubelle hier devient la manière de s'alimenter d'un tas de personnes, éthiquement, moi, ça passe pas. Et donc, c'est bien ça qu'il faut dénoncer. Lutter contre le gaspillage alimentaire, aucun problème. Récupérer ces produits, aucun problème. Mais s'ils sont bons, ils sont bons pour l'Élysée, pas forcément pour les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire.
Philippe, peut-être pour rebondir.
Ah, je suis entièrement d'accord sur le sujet. Et pour donner encore d'autres éléments de contexte, comment évolue la ramasse depuis quelques années ? Donc, la ramasse diminue considérablement. Les seuls produits qui ne diminuent pas en ramasse, ce sont les fruits, les légumes, pain et viennoiserie. Pourquoi ? Parce que les magasins ne savent pas solder ces produits-là. Tant que le produit est bon, ils le vendent. Quand il est plus bon, ils le donnent aux banques alimentaires. Contrairement à des produits frais ou des produits laitiers, où là, ils trouvent des moyens de discounter dans des bacs réfrigérés, à moins 30, moins 40%, et tant qu'ils peuvent vendre, ils vendent. Et là, ils vendent jusqu'au bout, jusqu'à la date du jour. Et ce qui n'est pas vendu ce jour-là, ben, ça risque de partir aux banques alimentaires le lendemain.
Oui, parce qu'en fait, il y a une... finalement, avec cette loi, s'est développée de nouvelles formes de commercialisation des produits qui arrivaient en fin de validité. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, ces produits étaient jetés. Et puis finalement, là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient effectivement mettre en place des back discounts, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que les ramasses, finalement, récupèrent moins de produits.
Je vais juste apporter une précision, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est une ramasse. Donc, moi, c'est un terme que j'utilise depuis 7 ans, donc je sais un peu ce que c'est. Donc, la ramasse, c'est le fait d'aller dans les magasins, de ramasser des produits en fin de vie. C'est aussi simple que ça.
Oui, c'est ce que tu, c'est ce que tu as décrit au départ avec les trois camions qui font leur tournée.
Voilà, les produits de ramasse. Donc, on a vu qu'il y avait des bacs discountés à moins 30, moins 40%. Et depuis maintenant 3-4 ans, il y a aussi les ventes sur Internet, notamment l'application Too Good To Go, qui permet aux magasins de vendre des paniers de produits qui arrivent en fin de vie aussi à un prix discounté. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de produits frais dans les ramasses.
Et donc, le problème, là, je ne sais pas si vous avez fini par le comprendre, c'est que ce que récupèrent les associations, finalement, il y en a une grosse partie qui va quand même finir à la poubelle, ou en tout cas qui ne pourra pas être distribuée comme elle, normalement, comme elle le devrait. Or, c'est au point initial que les déductions fiscales sont faites. C'est-à-dire qu'il y a 30% en fait, qui sont déduits par les entreprises, alors que théoriquement, elles ne devraient pas y avoir droit. Et c'est pourquoi, je me tourne vers vous, Jean-François, que vous avez donc déposé des amendements au projet de loi de finances pour essayer de venir encadrer ce problème. Vous pouvez nous l'expliquer ?
Oui, avec une petite incursion quand même en arrière pour revenir sur la façon dont sont gérés les grands magasins, la grande distribution. En général, dans leur compte prévisionnel d'exploitation, ils prévoient les décotes liées aux pertes. Donc, en quelque sorte, elles sont déjà provisionnées, en quelque sorte, par la façon dont ensuite les marges sont appliquées à l'ensemble des produits qui, eux, seront vendus selon le circuit habituel, de telle sorte qu'avant qu'il y ait ce dispositif de la loi Garot, ou les dons, en général, des distributeurs aux associations des banques alimentaires, il y avait déjà un dispositif comptable qui faisait que ce que vous achetiez, vous, consommateur lambda, qui était tout à fait apte à être consommé, le prix de vente contenait déjà, avait anticipé en quelque sorte les pertes qui devaient se produire pour les produits qui avaient dépassé la date limite de consommation. Donc il y a déjà en quelque sorte une confortation de la marge globale du fonctionnement des grandes surfaces avec cette intégration-là dans les marges appliquées, les taux de marge appliqués. Ensuite, on s'en rend compte en tant que législateur, pour le coup, et défenseur en quelque sorte de l'argent public, que cette décote, cette dépréciation, cette démarque, en quelque sorte, elle est déjà payée en partie par le paiement de la TVA, la récupération de la TVA par le distributeur. Elle est récupérée également par le fait qu'effectivement, il n'y a pas de contradictoire suffisant à nos yeux qui permet de dire que ce que déclare la banque alimentaire ou l'association bénéficiaire en comparaison soit suffisamment comparé, évalué et confronté aux documents que fournit ensuite à l'administration fiscale les grandes surfaces et les distributeurs. Donc ça nous pose à nouveau un problème puisqu'on se dit là il y a quelque chose qui passe à travers les mailles du filet. Ensuite, Philippe ne l'a peut-être pas rappelé, mais la grande surface, lorsqu'elle va apporter, par exemple, en admettant qu'elle amène jusqu'aux entrepôts les produits dont elle fait don, va pouvoir récupérer, même sur la personne qui est venue effectuer cette tâche, le véhicule, l'essence, l'énergie qui a été dépensée, va récupérer également la TVA. Et nous, on se dit, c'est quand même extraordinaire que finalement, on est dans un dispositif qui est censé profiter aux associations et ensuite aux bénéficiaires finaux. Et finalement, cette loi, toute bien intentionnée qu'elle soit, d'éviter la perte, comme tu le rappelais, ou de permettre à des gens qui ont des difficultés pour payer leur propre nourriture de pouvoir être aidés dans ce sens-là, on se dit que finalement, on a là un dispositif qui dysfonctionne puisqu'il prend beaucoup d'argent des impôts et du budget de l'État pour aller finalement conforter des marges qui ne l'ont jamais été autant, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les niveaux d'inflation sont phénoménaux. Donc s'il y en a bien qui répercute sur les consommateurs, sur le consommateur final, les coûts de revient, les prix de revient, et s'assure de conforter toujours les mêmes marges, c'est bien les distributeurs. Le but n'est pas, donc, dans la conclusion que nous en avons tirée, de mettre fin à ce dispositif, puisqu'il a une forme, malgré tout, de vertu, qui est celle d'éviter le gaspillage. Le gaspillage, c'est pas bien, tout le monde vous le dira, que ce soit sur un plan moral ou sur un plan économique. Et puis, de permettre à des gens de plus en plus nombreux, hélas, dans notre pays et à travers le monde, mais dans notre pays en particulier, de pouvoir avoir accès quand même à la satisfaction de besoins primaires, dont l'alimentation est peut-être le premier, bien évidemment. Donc, partant de là, eh bien, nous avons prévu un dispositif, une loi, au départ, qui devait faire l'objet d'un projet de loi, qui prévoit non seulement d'imposer le contradictoire, mais avec prééminence de l'évaluation par les banques alimentaires et les associations des quantités réellement exploitables.
Acceptées.
Oui. Acceptées et exploitables. Parce que je rappelle également que lorsque dans des entrepôts comme ceux des banques alimentaires, qui sont des immenses entrepôts, il faut voir, c'est comme des grosses entreprises, comme des gros entrepôts de frais, par exemple. Il y a énormément de frigos, de chambres froides. Il y a du personnel qui est bien souvent bénévole, qui effectue des tâches énormes de tri, de sélection, de conditionnement, déconditionnement. Donc tout ça, ça a un coût. Ça a un coût social, en quelque sorte. Et donc, nous voulons, un, que le contradictoire soit au bénéfice de la véracité, enfin de la sincérité de la déclaration des associations qui reçoivent, une première chose. Nous voulons effectivement éviter qu'il y ait des abus, puisqu'on se rend compte, on s'est rendu compte, dans un premier temps, sur le plan local, régional, et avec, par extension, la conclusion qu'il s'agissait d'un problème systémique, pour le coup, qu'on a des évaluations de prix de revient de certains produits frais qui peuvent aller du simple au triple. Moi, j'ai vu des tableaux où sont évoquées les différences de prix qui sont déclarées à l'administration fiscale, n'oublions jamais ça, qui peuvent aller de 2 euros le kilo de pêche, par exemple, à 7 euros le kilo de pêche, au motif que c'est des pêches sanguines ou des pêches de vigne, ou que sais-je. Donc, voilà, tout cela est tellement mal encadré, tellement mal contrôlé, et bénéficie tellement, par défaut, aux déclarants plutôt qu'aux bénéficiaires, que nous demandons également à ce qu'il y ait un prix qui soit fixe en quelque sorte par catégorie, par grande catégorie de produits, que ce soit fruits, légumes, épiceries, laiterie, pain, viennoiserie. Voilà, il faut qu'il y ait des prix qui soient fixés et que ce ne soit pas à la fantaisie en quelque sorte des entreprises qui les déclarent, d'autant qu'on a aussi observé une très forte corrélation avec l'inflation extrême des prix déclarés lorsque ces déclarations étaient faites via l'intermédiaire, via la sous-traitance, d'entreprises qui sont là pour défiscaliser, qui ont pignon sur rue, dont les sites internet font état du fait qu'ils se proposent de permettre de l'optimisation fiscale à leurs clients. Donc voilà, un premier article qui encadre ceci en termes de confrontation des dons tels qu'ils sont évalués par les bénéficiaires et tels qu'ils sont évalués par les donateurs. Un prix qui soit calibré, qui fasse l'objet d'un décret qui fixe des prix pour toutes les denrées par catégorie, c'est la première partie, et la deuxième partie de la loi qui consiste à faire en sorte que les avantages fiscaux, alors pour le coup sur la TVA, soient également accordés aux entreprises qui répondent, qui satisfont un service public absolument indispensable qui est celui de correctement nourrir la population de notre pays.
Je vais revenir sur quelques points financiers déjà. Le dispositif de l'Agaro est quand même vachement favorable aux grandes surfaces, notamment sur un point, le fait de donner aux banques alimentaires, ça leur permet de ne pas payer le coût de la destruction des produits. Déjà, c'est des associations qui supportent le coût de destruction des produits. Donc c'est déjà un premier point. Donc effectivement, on taille beaucoup de bénévoles, mais avec des salariés. Hein. En Savoie, on a 4 salariés, on a 120 bénévoles. Donc tout ça, ça repose essentiellement sur du bénévolat.
Je me permets de t'interrompre, mais justement, là, quand même, le fait d'encadrer un peu plus strictement les choses fait que ça va être compliqué aussi pour les associations d'aller vérifier, d'aller...
Non, absolument pas. La proposition, je l'ai faite avec Jean-François, et je suis assez quand même, un opérationnel à ce sujet, pour ne pas me tromper. On fait déjà ce tri, cette pesée. On a un système informatique où on stocke tout. Donc, sortir l'État qui va servir à la défiscalisation, ce ne sera pas du tout un problème. Et donc, on attend
toutes les associations fonctionnent
on pèse
comme
tous,
ça.
On pèse tous. À un moment ou à un autre, on pèse tous par produit. On n'a pas la même nomenclature de produits, certes, mais on arrivera à rentrer dans les fameuses cases. On a défini 5 familles de produits. Et donc, par analogie, on a identifié cette solution par analogie au barème kilométrique. Dans les entreprises, on peut se faire rembourser les kilomètres parcourus selon un barème en fonction de la puissance du véhicule. Mais là, c'est pareil. Il devrait, j'espère, y avoir un prix par type de produit. Et là, il n'y aura plus aucune discussion. Et au moins, la défiscalisation se fera sur les produits acceptés par l'association. Ce sera un grand pas en avant.
Bénédicte, on a vu que tu voulais rebondir.
Alors, je voulais rebondir et puis aussi inclure un petit peu les personnes qui, finalement... Alors, moi, je ne les appelle jamais bénéficiaires. Et quand je t'entendais finalement parler des grandes surfaces, je me disais... les voilà les bénéficiaires dans l'histoire. C'est eux qui requièrent un bénéfice de quelque chose. Tandis que les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire et qui sont en situation de pauvreté et de précarité diverse, eux, aujourd'hui, en France, avec l'ensemble de durcissements en fait, des lois qui détruisent la protection sociale, sont vraiment pas bénéficiaires de grand-chose, loin de là. Donc, et c'est vrai que dans différentes structures, on les appelle différemment, personnes accueillies, invitées, etc. Et ces termes, ce n'est pas anodin, c'est très, très important comment on dénomine et comment on appelle en fait, la personne qui a recours à l'aide alimentaire. Et donc, moi, je voulais vous dire que ces produits, finalement, quand ils leur arrivent, ils posent question. Et j'ai plusieurs exemples là-dessus. J'ai l'exemple d'une mère de famille qui va chercher son colis à une distribution des Restos du Cœur, qui rentre, qui nous dit tout poser sur la table, regarder les dates et s'interroger. Qu'est-ce que je fais ? Je donne ça à mes enfants ou je ne le donne pas ? Est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon ? À avoir en tête que du coup, elle n'a rien osé dire au moment où on lui a donné ses produits, de peur de, qu'on ne lui donne plus, ou on ne crache pas dans la soupe, comme on dit. Donc elle récupère tout, mais elle aussi, elle se questionne, et elle aussi, peut-être, in fine, elle va jeter. Et puis, un autre exemple, beaucoup plus brutal pour moi, c'était lors d'une distribution donc en maraude, repas chaud distribué la nuit, ici dans le département de Seine-Saint-Denis, et un jeune homme revient avec des biscuits et il me les jette devant, quoi. Et il me dit « Qu'est-ce que c'est que ces biscuits ? Tu nous as pris pour un... Tu me prends pour un chien ou quoi ?» Et puis il me dit « Regarde la date !» Je regarde. Donc il me parlait comme ça, mais on se parlait bien et on s'entendait bien. Hein. Globalement, je pense aussi qu'il a... Il a pu se permettre de dire ça et de le poser, et je le remercie encore. Et donc, on regarde la date ensemble, et je lui dis, et je commence le discours qu'on nous a appris. Oui, mais c'est, tu sais, c'est pas, il y a la date de fraîcheur, et puis il y a une date, tu peux le manger après, ça te rendra pas malade. Il me dit, oui, mais c'est pas bon. Et c'est ça qu'on me donne. On me donne quelque chose de pas bon depuis 3 mois. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ce jeune homme, il était dans une situation où il attendait la régularisation de ses papiers et on ne l'a plus vu dans la salle d'attente. En fait, ceux qui se plaignent, ces explosions de violence, elles sont positives aussi parce qu'elles nous permettent de voir à travers ces dons alimentaires des personnes qui vont pouvoir s'en sortir, qui vont pouvoir en fait sortir de cette spirale-là. Et du coup, quand je vous donne ces deux exemples, pour moi, ce qui est important, c'est de resituer ces personnes dans cette économie, dans ce marché, en fait, ou une économie morale ou immorale, mais de vous montrer qu'en fin de compte, quand on s'appuie sur ces dons-là et qu'on décide d'en faire une défiscalisation, dans le don, il y a quelque chose de très important qui fait exister l'autre, c'est de pouvoir rendre. Si on vous donne quelque chose et que vous ne pouvez pas rendre en retour, vous allez être mal à l'aise dans votre relation. Et d'ailleurs, c'est une menace à la paix, comme pouvait le dire Mauss. Donc là, celui qui rend à la place de la personne à laquelle le don est destiné, c'est l'État. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'échange est déjà fait entre le supermarché et l'État. Donc, dans ce système-là, ce marché indigne de la faim, celui à qui est destiné le produit, il n'est qu'une variable d'ajustement. On n'attend absolument rien de lui. Heureusement, dans le don direct qu'effectuent les bénévoles, qui, eux, vont recharger les produits de tout un tas d'autres valeurs, de justice, de dignité, par ce tri. Il faut les voir, hein, les ramasses, on vous en parle vite, mais les ramasses, en fait, c'est dans le froid, c'est le dos courbé, il faut récupérer les produits, on parlait des kilos, c'est plein de poids supporté par des personnes qui ont déjà toute une carrière derrière elles. Et donc, c'est énorme. Bravo à tous ces bénévoles de faire ça. Donc ils en arrivent là, ils rechargent ces produits d'une forme de valeur, et c'est ça qui circule, c'est ce don magique en fait, qui est mis à disposition et qui va redonner à l'autre espoir et facilité de vie. Et moi qui étais très critique en fait sur certains produits, eh bien, je vois que le pire des produits, s'il est donné avec tout l'amour et toute la justice dont peut le charger le bénévole, eh bien, il va opérer quelque chose de magnifique pour la personne qui reçoit. Mais à contrario, cette destinée en fait, que donne l'État en disant « on va donner ces produits aux personnes », assigne les personnes et ne les fait plus exister dans un milieu où finalement ce qui existe, c'est le profit, c'est le capitalisme et la création de marché.
C'est arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en deux minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes au pied, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Enfants de l'autre côté, on était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Semaine comme ça, qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever, pas moyen de se laver. Paraît que c'est la félicité, puisqu'on est tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la mer.
L'anthropologue qui pense le don, il nous dit que le don, il peut beaucoup de choses, mais il ne peut pas la justice. D'où l'importance, en effet, de réfléchir à un autre système, même si je vous dis que le don, aussi, il crée des choses magiques. Coluche, quand il met en place tout son projet autour des Restos du Cœur, il pense à une chose incroyable, c'est en effet la défiscalisation, mais c'est pour que l'État mette le pied à l'étrier. C'est absolument pas pour que l'État se dédouane de sa mission. Parce que chose qu'on a oublié de dire, c'est que le droit à l'alimentation n'est pas respecté en France. L'aide alimentaire, ce n'est pas le droit à l'alimentation. La France fait le choix de déléguer la mission à des bénévoles, à des associations, sans leur en donner les moyens. L'alerte, elle est là. Une des premières alertes est là. Et donc Coluche, à aucun moment, il a voulu ça. Et toutes les autres structures, pour les banques alimentaires, c'est la sœur Bigot qui est à l'origine et qui a créé ce mécanisme-là. Personne, en fait, ne voulait que ce système-là perdure. Et on confond, en fait, le fait que ces structures, elles sont nées pour lutter contre la pauvreté, pas contre le gaspillage alimentaire. Et ça, en fait, c'est plein de choses aussi qui est important d'avoir en tête, permettre aux personnes de jouer le rôle qu'elles désirent jouer. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'aide alimentaire, vous avez entendu parler du cri d'alerte des Restos du Cœur en début d'année, on en arrive à un système où la personne qui s'engage pour dire oui, si vous vous engagez, que ce soit au Restos du Cœur, au Secours Populaire ou dans la Banque Alimentaire, c'est pour dire oui à l'autre, oui, je vais te donner quelque chose. Et je vous expliquais qu'en plus, à travers ce don, vous allez te donner de vous-même et que vous allez pouvoir faire circuler d'autres valeurs qui ne sont pas inhérentes au produit. Eh bien là, on leur dit de dire non. C'est un non-sens, c'est un contresens, c'est beaucoup de souffrance. Et ça nous montre à quel point, en fait, on est allé loin dans l'usage des corps et des bénévoles et des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire pour absorber une surproduction qui est en train de détruire notre agriculture et qui ne permet pas, en fait, de résoudre aucun problème. Au contraire, on va encore plus loin.
Alors peut-être qu'on pourrait, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quelque part, les associations sont au courant du problème. Comment ça se passe officiellement dans les associations ?
De quel problème ?
Du problème du fait que les ramasses, finalement, il y a quand même beaucoup de produits qui sont finalement jetés et qu'elles participent au fait que les entreprises bénéficient de déductions fiscales dont, normalement, elles ne devraient pas bénéficier.
Disons que les associations subissent complètement et ne contestent pas trop. Je ne connais qu'un seul président qui conteste, c'est moi. Donc... voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Ils sont tous conscients, effectivement, que les grandes surfaces profitent du système. Ça, tout le monde en est conscient. Mais ils ont peur que s'ils contestent, les magasins ne donnent plus. Voilà. C'est la peur.
La raison essentielle, ah oui, finalement, au fait qu'il y ait un silence un peu assourdissant par rapport à ce problème.
Peut-être une autre partie de la réponse, c'est que quand on parlait des échanges entre les différents acteurs de dons, contre dons, etc., l'État, il va donner aux associations certaines petites subventions, des prêts de locaux, etc. Et la contrepartie qu'attend l'État, c'est la paix sociale. Et ça, c'est extrêmement important aussi. C'est que les bénévoles, ce qu'ils font les trois quarts de leur temps quand ils vont distribuer de la nourriture, c'est qu'ils contiennent cette violence qui est liée au non-respect du droit à l'alimentation, puisque le non-respect d'un droit, c'est une violence. Et parce qu'ils la contiennent, en fait, eh ben, ils savent qu'est-ce qui peut se passer. Et j'ai plein de bénévoles qui me disaient, moi, je les prends, ces produits, parce que finalement, tourner le camion vide, c'est prendre le risque de s'en prendre une. On ne peut pas se permettre d'arriver à minuit auprès de mecs qui n'ont pas mangé de la journée et qui attendent depuis plusieurs heures dans le froid et d'arriver sans rien. Donc on les prend, évidemment, ces produits, et on fait avec. Et ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête, c'est que la réalité de l'aide alimentaire, de ne pas être suffisamment dotée pour répondre à cette mission, eh bien, c'est de devoir composer. Et c'est important de se dire qu'ils sont en résistance, ces bénévoles. Ils ne sont pas en co-gestion de la pauvreté avec l'État, comme l'État le prétend. Ils sont vraiment en train de résister à quelque chose, en train d'assister au pire. Ils le font remonter par nombre de rapports, etc. Ils ne sont pas entendus. Et ça, c'est un réel problème aujourd'hui.
Donc, il y a différentes approches pour ce problème-là. Celle des Restos du Cœur, telle qu'annoncée par le président des Restos du Cœur en septembre, c'est de diminuer le nombre de personnes accueillies. Aux banques alimentaires, ce n'est pas ce qu'on a fait. Nous, simplement, on diminue la taille du panier. On distribue à tous les gens qui le demandent, qui ont droit plutôt. Et en 3 ans, on est passé d'un panier hebdomadaire de 7 kg à un panier hebdomadaire de 5 kg. Et là, en 2023, on va distribuer 4,5 kg par bénéficiaire par semaine. Je voudrais ajouter un petit truc sur la distribution, parce que je fais aussi de la distribution une fois par mois dans l'association. Et donc là, effectivement, on accompagne les bénéficiaires. Alors, ce n'est pas valable dans toutes les associations, mais en tout cas, ce qu'on fait chez nous, donc on reçoit de la banque alimentaire le matin une livraison des produits frais, des produits secs. Le but de l'après-midi de distribution, c'est de distribuer 100% des produits frais qu'on a reçus le matin. Donc là, on s'arrange. On fait des tableaux en disant, là, il y a une famille de 5 qui arrive, ils mangent de tout, donc on leur donne ça, ça et ça. Et donc, on fait une distribution de tout. Sur les produits secs, c'est différent. Donc là, on amène un certain nombre de produits secs sur la table et le bénéficiaire prend ou prend pas. Il n'en prend qu'une partie. Il demande si on n'a pas autre chose à lui donner. Il y a une discussion qui se fait. Et donc, c'est quand même assez, comment dire, éthique comme comportement. Et juste une précision sur les dates. tout le monde n'est pas forcément au courant, il y a deux types de dates. Il y a la DLC, date limite de consommation, qui concerne tous les produits frais, et la DDM. Alors, si quelqu'un peut me dire ce que c'est une DDM, je vous écoute. Ah, personne ne sait, c'est bizarre. C'est la date de durabilité minimale. Ça concerne donc les produits de longue conservation. Donc, c'est un terme technocratique, inventé sûrement par un énarque.
Et c'était de cela dont on parlait, Bénédicte, avec donc, les biscuits qui étaient pas bons.
Mais alors, pas bon, c'est pas vrai. C'est pas bon, c'est... C'est-à-dire, ils sont tout aussi bons pour la santé. Ils ont un peu moins de goût, simplement. Et donc, on a le droit de distribuer des produits en DDM dépassés. Et même les mêmes magasins, dorénavant, ont le droit de vendre en DDM dépassés. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, généralement, quand ils le font, ils font un discount. Mais ils ont le droit de vendre en DDM dépassés. Et donc, nous, on s'est fait un petit tableau pour ne pas non plus distribuer des produits qui ont dépassé de trop longtemps. On peut dépasser de 3 mois ou 6 mois suivant le type de produit. Parce que des conserves, par exemple, on pourrait dépasser d'un an ou deux, il n'y aurait pas de souci. J'ai juste un petit truc à rajouter. Il y a eu une évolution de la loi Garot il y a quelques années. Dans la disposition initiale, les produits qui avaient moins de 3 jours de durée de vie devaient être défiscalisés à 50% du prix de revient. Cette disposition a sauté parce qu'elle était ingérable. Mais aujourd'hui, on demande qu'elle soit appliquée sur l'ensemble des produits. Est-ce que tous les produits qu'on reçoit, ou 95% des produits qu'on reçoit, ont moins de 3 jours de durée de vie? Donc aujourd'hui, on peut dire qu'ils défiscalisent tous à une hauteur deux fois plus importante qu'elle devrait être.
Est-ce qu'on a une idée de la somme que cela... À quoi ça correspond finalement?
Alors, mon estimation toute personnelle, mais bon, j'ai un peu d'historique sur le sujet et des compétences professionnelles qui me permettent d'être assez précis, ça doit être entre 150 et 200 millions de défiscalisation de trop.
Voilà. Chaque année.
Chaque année, bien sûr.
Pour l'ensemble des chaque entreprises ouais.
En restant sur le même tarif. Donc si en plus on baisse le tarif de fiscalisation, ça pourrait faire une économie de entre 200 et 300 millions pour l'État.
Qui arrive juste après ce que j'ai envie d'exposer. Quelle est la qualité de la PAC, dont la surproduction alimentaire, qui fait qu'il y a autant de gaspillage. Parce qu'à un moment aussi, c'est forcément, ça fait système. C'est-à-dire que s'il y en a autant dans les magasins, c'est qu'il y en a trop qui a été produit, qui a été trop financé par la PAC, qui, donc nos impôts. Donc je pense que là, il y a vraiment aussi, sans doute, des actions militantes là-dessus. Pour réviser, en fait, les modalités de versement des subventions de la PAC, non plus à la tonne, mais à la qualité des produits ou à, au fait que...
Ce sera un peu compliqué. Hein, mais...
Bon courage,
vas-y.
Bon courage. Deuxième point, je pense que quand vous avez parlé de la destruction qui était faite par vous au lieu des grandes surfaces, je pense que dans la salle, on ne réalise pas l'économie de manutention, de transport, de destruction, de rapports administratifs à faire en disant « j'ai bien détruit des produits selon telle norme, avec la PAPREC et avec machin, avec Citeo et avec truc ». On parle de dizaines de millions d'euros. Si la totalité de ce qui est déjà versé par l'État est autour de 200 à 300, ça coûte une blinde de détruire des produits alimentaires avec les normes qui existent aujourd'hui. Donc ça vient d'engréver vos coûts à vous, vos budgets, vos moyens. Et nous, en fait, si on vous donne... On va payer la destruction des choses qui devraient être faites par le donneur de produits.
Si vous donnez des produits à la collecte, ce sont des produits de longue conservation, il n'y a aucune perte à ce niveau-là. Là, on parle des dons des magasins.
Tout à fait.
Et là, effectivement, il y a beaucoup de pertes et il y a une destruction des produits. Il y a vraiment deux canaux différents.
Et la troisième question, c'est est-ce qu'on a des lanceurs d'alerte à la DGCCRF, par exemple ? Est-ce que c'est eux qui sont normalement en charge de la vérification de ces choses-là ? Voilà, c'était ma question.
Alors peut-être aussi, c'est important de parler. Moi, ce à quoi j'ai assisté pendant mon terrain, c'est des contrôles des structures de l'aide alimentaire. Donc eux ont eu des contrôles, mais y avait une pratique, c'est que par exemple, je fais une ramasse le vendredi, ma distribution est le lundi, le mardi, je reçois des pizzas ou du poulet, je congèle. Soit pour la prochaine distribution, soit pour un moment où en fait on sera moins doté et il y aura moins de choses. Et en fait, ça c'est interdit. L'acte de congélation est un acte technique. Donc, du coup, il faut un matériel particulier, cuir, etc. Donc, ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc, ils ont été énormément contrôlés là-dessus. Et ça, voilà, ça, c'est venu à avoir des conséquences sur le secteur. Moi, je voulais réagir par rapport à la question agricole qu'il ne faut surtout pas oublier, en fait. On a appris à raisonner la question de l'aide alimentaire comme si l'aide alimentaire était une forme d'alimentation à part et ne faisait pas partie du système alimentaire. Et pourtant, ils en font partie. Ils en font partie énormément depuis la loi de modernisation agricole de 2010, où l'aide alimentaire est devenue un débouché pour l'agriculture. Donc oui, il y a des problèmes au niveau de la PAC, de répartition. C'est des aides qui sont données à la surface, qui imposent aux producteurs de produire trop pour produire assez. Donc on a un gaspillage de dingue. Et quand Coluche, lui, pense... le fait de récupérer des produits invendus, on est à une époque où on a des stocks européens où on vient taper dans des produits qui sont ceux qu'on a dans nos placards. Aujourd'hui, dans les produits qu'on reçoit au sein de l'aide alimentaire, c'est des produits qui sont d'une autre gamme et qui, du coup, n'ont rien à voir avec ceux qu'on a dans nos placards. Ce sont des produits qui coûtent très, très peu cher, spécialement dédiés pour les pauvres, donc des marchés pour les pauvres. Peut-être que je te laisse réagir sur la PAC si tu veux aller plus loin là-dessus.
Oui, non, je pense que tu as très bien résumé le fait qu'en fait, la PAC gère des flux gigantissimes à l'échelle d'un continent européen, voire même mondiaux. Donc, lorsque des stratégies de production se mettent en place et sont imposées, on va dire, par des incitations bien souvent fiscales, eh bien, c'est toute une profession à travers tout un continent qui va se mettre à produire énormément d'un produit dont on pense qu'il va avoir une très grande demande. Je vais prendre un exemple assez récent qui a été celui de la demande en lait et en viande des Chinois. Et donc, on va anticiper ça en disant il faut produire énormément. Là, on a un marché qui s'ouvre tout nouveau et il faut que dans l'espace de 18 mois, on soit en mesure de répondre à 60% du besoin de la société chinoise sur ces produits. Donc, on convertit en quelque sorte et on contraint toute une production pour aller dans un sens qui ne prend pas en compte les spécificités territoriales, locales, étatiques, environnementales encore moins, bien évidemment, puisqu'à la manœuvre sont des syndicats agricoles qui ont tout à l'esprit, sauf la question environnementale. Donc on comprend bien que ce n'est pas de ces gens-là, et ni de la Commission européenne, que nous tirerons une solution par rapport à la... disparité, enfin, comment dire, au déséquilibre des produits qui sont en quantité telle qu'on puisse en espérer des dons. Mais une partie, comme a dit Philippe tout à l'heure, une partie de ce que la banque alimentaire, de ce dont dispose la banque alimentaire pour faire des paniers, provient des dons des distributeurs, mais provient également d'enveloppes qui sont dépensées auprès de l'Europe pour acheter des quantités également de denrées.
Je voudrais dire un petit truc sur les contrôles. Parce que donc, on a dit, les magasins n'ont pas de contrôle. Par contre, nous, associations, on a des contrôles. Nos associations partenaires ont des contrôles de la part de l'État. Donc des contrôles exercés par France Agrimer, qui est l'organisme qui dépend du ministère de l'Agriculture, et qui va faire des contrôles. Imaginez-vous bien qu'ils ont fait des contrôles en pleine période de confinement durant le Covid. Mais c'est incroyable.
Mais alors, quels sont ces types de contrôles ?
Ce sont les contrôles sur les produits européens. Et donc, c'est les contrôles à la fois des contrôles sanitaires, mais surtout de gestion de stock. Et donc, on doit justifier de nos stocks au kilo près. Oui.
Allez-y. Juste ce que je voulais rajouter, c'est que si vous avez l'occasion de visiter une banque alimentaire, vous allez voir que c'est administré, géré comme n'importe quelle autre grosse entreprise de distribution. C'est impressionnant. La pesée, le déconditionnement, le conditionnement, la chaîne du froid, la classification, les bons d'entrée, la valorisation, la comptabilité. C'est comme une énorme entreprise en réalité. Le transport, les bénévoles, le personnel. Elle en supporte toutes les charges, mais sans en avoir les aides qu'ont finalement ceux qui balancent des palettes sans trier.
Bon, je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias. Là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.